En rouge et noir, un podcast de Robin Schmitt.
Mais qui se cache derrière les militants politiques? Qui sont ces petites mains qui font vivre la politique française telle qu'on la connaît? À Strasbourg, j'ai rencontré Nicolas. Alors Nicolas, il vient d'une famille ouvrière de Lorraine. Il est arrivé à Strasbourg il y a un peu plus de 7 ans pour poursuivre des études d'architecture. Mais aujourd'hui, Nicolas, il n'est pas architecte. Il s'est tourné vers la politique. Ça fait 5 ans qu'il est engagé au Parti communiste. Une façon pour lui de s'entourer et de faire vivre ses convictions. Je l'ai rencontré dans un café il y a de ça une semaine.
J'ai 26 ans, je suis à Strasbourg depuis 2015. J'ai grandi en Lorraine, dans le nord de la Lorraine, près de la Belgique et du Luxembourg. Donc ancien bassin sidérurgique, très désindustrialisé. Je suis issu de l'immigration, comme beaucoup de monde dans le bassin sidérurgique.
De quelle branche de l'immigration, du coup, italienne, portugaise, espagnole?
Alors les deux premières, donc italienne et portugaise. Mon père est né en France, mais ses parents étaient arrivés pas très très longtemps avant en France. Et ma mère, elle est née au Portugal et elle a émigré au Luxembourg, puis elle est venue en France.
Le fait d'être issu de l'immigration, ça implique que tu sais, dans ta chair, t'as pas le même vécu que des personnes qui sont ici depuis 6-7 générations. Ça va de pair, tu vois, un peu avec le fait que, ben, typiquement, mes parents, ils sont pas politisés. Quand t'arrives, comme dans les vagues d'immigration du siècle dernier, quand t'arrives dans des conditions dégradées, etc., c'est pas propice à ta politisation, en fait. C'est, d'abord, t'essayes de survivre. Donc il y a un peu ça qui joue. Et puis il y a aussi le fait que, enfin, c'est complètement lié aussi à l'histoire du bassin, c'est-à-dire que j'ai encore vu un truc assez récemment, c'était une carte avec par bassin d'emploi ou quelque chose comme ça, le pourcentage de la population qui est issue de l'immigration, et c'est vraiment, en fait, c'est juste sur le secteur autour de Longwy, même pas sur tout le nord de la Lorraine, hein, sur le secteur autour de Longwy, c'est vraiment une tache rouge.
Je suis arrivé dans le militantisme un petit peu par un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'avais eu un petit contact, on va dire, avec ce qu'était la politique de très loin. Hein. Quand j'étais au lycée, notamment avec une de nos profs d'histoire géo, avec qui on faisait très très peu le programme, mais avec qui on voyait très très beaucoup, on va dire, l'histoire du bassin et l'histoire de l'immigration ouvrière, etc.
En tant que militant communiste, ça reste quand même quelque chose d'important. Parce que déjà, c'est une des dernières grandes révoltes, hein, entre guillemets, des travailleurs.
Nuit de violence à Longwy, hier jeudi, pendant près de 10 heures, se sont affrontés avec acharnement sidérurgistes et forces de l'ordre. Une bataille qui a fait 3 blessés légers. 2 jeunes gens parmi les manifestants ont d'ailleurs été interpellés et placés en garde à vue.
De fil en aiguille, après la campagne de Mélenchon, donc je me suis un peu rapproché du Parti communiste par ces personnes, mais pas à Strasbourg. Je connaissais pas du tout les camarades strasbourgeois. Et en 2018, avec quelques potes militants, pas du Parti communiste, mais à Strasbourg, on est allé à la fête de l'UMA, donc en 2018.
Tout ça, je vous en parle avec passion, parce que c'est énorme ce qu'on a fait. Vous autres, les communistes, vous devez y penser plus fort que les autres. C'est la victoire de la ligne stratégique.
Moi, c'est ce qui m'a prépoussé à faire mon adhésion. C'est vraiment, tu débarques là-dedans en disant, bon, c'est un festival, c'est un peu politisé, ça va être sympa. Et en fait, non, tu découvres que c'est genre 3 jours de contre-société, complètement. T'es hors du monde capitaliste, évidemment. C'est 3 jours où, dans tous les sens, t'as des gens qui débattent, des gens de toutes origines, de toute classe sociale, enfin des gens de partout, même du monde entier, parce que c'est une fête où il y a quand même énormément de partis, d'associations, d'organisations amies, d'autres pays qui viennent à la fête de l'humanité.
Quand je suis rentré en fait dans le train du retour, je me suis dit je vais aller demander ma carte au parti. Donc c'est comme ça que j'ai pris ma carte fin 2018. Et que je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est en 2022 que je suis devenu collaborateur de groupe pour la ville, à la ville. En gros, c'est un peu un travail similaire à celui d'un assistant parlementaire, mais pour des élus municipaux, plutôt que pour des députés, etc. Moi, ma vocation, bah, ça reste quand même d'être architecte. C'est le métier que je veux faire et c'est celui où je me sentirai utile.
Je suis venu ici pour étudier l'architecture. Pour moi, ça a toujours été une évidence, c'est-à-dire que même quand j'étais petit, même quand j'étais à l'école primaire, déjà, je savais que je voulais faire des bâtiments. Même quand j'étais tout gamin, mon père il me ramenait des énormes sous-mains en papier de l'usine et je dessinais des villes derrière au stylo bille. Voilà, je pense que j'ai été toujours un peu prédestiné.
On n'est pas nombreux en tout cas à avoir fait des études longues et on est encore moins nombreux à être vraiment parti du bassin. Tu vois, il y avait un peu de pression familiale. Mon père, il a toujours été ouvrier, mais en plus, il a toujours bossé dans la même usine. Il a fait toute sa carrière dans la même usine. Et c'était le premier à nous dire, non, faites des études autant que vous pouvez, quoi, pour pas vous retrouver dans la même situation que moi. Et pourtant, il n'était pas dans une situation inconfortable, etc. Il a pu prendre sa retraite à 58 ans. Il est pas en mauvaise santé. Mais même comme ça, je pense que ça aurait été un crève-cœur pour lui qu'on se retrouve dans la même situation.
Mon père, souvent sérieux, presque tragique, écoute bien à ton école. Peur que cette faveur étrange du destin, mes bonnes notes ne cessent d'un seul coup. Chaque composition réussie, plus tard, chaque examen, autant de prix, l'espérance que je serai mieux que lui.
Là, on va à une manif. Donc c'est une manif pour la paix au Proche-Orient.
Et ça te procure quel sentiment, du coup, si tu devais mettre un mot dessus ?
Plus la manif est grande, plus tu vas avoir une espèce de sentiment de galvanisation, d'un grand truc dont tu es une partie, tu vois, d'un grand collectif.
Tirer seul ?
Typiquement, non. J'aurais plus de mal, tu vois, à être seul, à être vraiment seul en manif.
Par inquiétude ou par... sur quelle base ?
C'est pas de l'inquiétude, c'est juste... Moi, je me sens juste pas nécessairement à l'aise, tu vois, mais genre ça, c'est même pas que en manif, tu vois. C'est genre, par exemple, je vais pas aller au cinéma ou à un concert seul, tu vois, parce que j'aime pas. J'ai besoin d'être entouré. C'est peut-être aussi ça, une des raisons de mon militantisme.
Mais tu vois, c'est assez paradoxal finalement parce que t'es quelqu'un de très engagé. Tu parles bien, tu sais t'exprimer, parler en public, j'imagine, parce que t'as l'habitude. Mais on n'aurait pas pensé que aussi t'es une personne qui est pas forcément à l'aise avec le fait d'être seule.
Et pourtant, tu vois, en vrai, je suis quelqu'un qui par moments est a parfois un naturel un peu solitaire. Des fois, j'aime bien me retrouver seul avec moi-même, mais j'ai quand même besoin d'être entouré.
D'autant plus que là, on va à une manifestation où il y aura sûrement plusieurs milliers de personnes. Là, typiquement, tu vas te sentir à l'aise, alors.
Ouais, mais je me sens à l'aise parce que je suis entouré des gens que je connais et que j'aime.
Tu te retrouves jamais seul avec la tête vide ?
Ça, jamais, tu vois. Je peux me retrouver seul avec moi-même, mais jamais avec la tête vide. Au contraire, en général, quand je suis seul avec moi-même, c'est là où je réfléchis le plus.
À partir du moment où t'es militant et tu commences à développer une conscience sur le monde qui t'entoure, en fait, t'as tendance à beaucoup plus gamberger, réfléchir, etc. sur beaucoup de choses. Et déjà, ça peut être épuisant parfois. Et du coup, y a des matins, j'ai pas l'énergie de me lever, quoi.
Tu vas finir par ressembler à Ursula Andrej.
Extrait du Redoutable, un film de Michel Hazanavicius sur la vie de Jean-Luc Godard.
Un beau programme.
Bah, c'est quoi le problème, Jean-Luc ? T'as eu tout ce que tu voulais, tu devrais être content.
Le problème n'est pas d'être content ou pas. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est qu'on n'est pas censé se faire bronzer le bout du nez quand tout le pays fait la révolution.
Lénine, peut-être pas, mais le Tché, il était bronzé.
Y a pas un moment où t'as envie de reculer, justement, et de dire, je fais une pause ?
Il y a des moments où t'as envie de te dire, je fais une pause. Il y a des moments où tu te dis même, j'aimerais ne pas être au courant de tout ce qui se passe. J'aimerais ne pas être politisé. La vie serait plus simple, tu vois. Et enfin, surtout dans une période comme celle qu'on traverse aujourd'hui, enfin, il n'y a plus aucune certitude. Le flux d'actualité En fait, c'est hyper pesant. Et donc, ouais, il y a des moments où t'as juste envie de plus y penser. Pour pouvoir mettre en pause de la politique dans ma réflexion, bah, faudrait que je mette en pause ma réflexion. C'est pas possible.
Clairement, c'est pas quelque chose que tu laisses sur le palier quand tu rentres chez toi. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement intime que forcément, il y a quelque part la question de la séparation avec la vie privée se pose pas vraiment. Il y a plus de facilité déjà à séparer les choses entre vraiment mon emploi et ma vie perso, même si forcément les impératifs de l'emploi font que ça se télescope avec la vie perso, notamment le travail le soir, les week-ends, etc. Sur l'engagement vraiment militant, je sais pas si c'est impossible pour tout le monde de le séparer de sa vie privée ou perso, mais en tout cas, pour moi, c'est impossible. C'est impossible parce que déjà, si je suis engagé, c'est pas par loisir ou par plaisir de mettre du temps dedans. Je veux dire, si je pouvais garder mon temps pour moi, je le ferais.
À quel moment tu décides d'arrêter ce que tu fais actuellement pour te retourner vers l'archi? Est-ce que c'est dans tes plans? Est-ce que tu...
L'année prochaine. Là, donc, mon contrat, il arrive à terme un peu avant les vacances d'été. Normalement, à cette période-là, je retournerai vers l'archi.
Je dis normalement parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir et on ne sait jamais de quoi demain sera fait.
C'était En Rouge et Noir, un podcast de Robin Schmitt pour le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme. Remerciements Nicolas, un mixage de Jean-Christophe Galen.